Donc, je vous avais laissé dans la situation de l'ambiguïté des situations historiques où à la fois manœuvre politicienne et naissance des idéologies modernes étaient étroitement liées. À cela, il faut ajouter un élément supplémentaire qui est que la population qui est essentiellement victime de la crise financière par l'accroissement très lourd de la fiscalité, etc., c'est la population musulmane. Et donc, les Européens, qui en paraissent bénéficiaires, sont chrétiens. Donc, l'opposition nationale va aussi prendre nécessairement des formes d'opposition confessionnelle. Ou plus exactement, vous trouverez dans une situation où les élites égyptiennes qui connaissent la langue et la pensée européenne et qui la pratiquent articulent leur pensée et leur action dans le vocabulaire de l'Europe. Mais l'Égypte de 1882 est à 90% analphabète. Et donc, dans les mouvements sociaux, c'est des oppositions plus brutes qui auront lieu, même s'il y aura, en 1882, des orateurs qui s'adresseront avec le discours du libéralisme à la population égyptienne. Toujours est-il que le 7 avril 1879, une pétition nationale, les Hawataniya, signée par 329 représentants des diverses élites gouvernementales, demande le renvoi des ministres européens. En premier lieu, il faut bien comprendre qu'il s'agit de l'action des grands propriétaires fonciers, qu'ils soient égyptiens de souche ou turco-circassiens, qui s'inquiètent de la mainmise européenne sur les finances de l'Égypte et des risques d'augmentation de la taxation des grandes propriétés. Ismaïl soutient le mouvement discrètement tout en promettant un régime constitutionnel et représentatif. Mais c'est là, on est dans les limites de la manœuvre politique. Est-ce qu'il peut contrôler jusqu'au bout la manœuvre politique et ne devoir pas céder un jour devant un vrai mouvement constitutionnel? Et c'est une question qui va hanter les historiens jusqu'à aujourd'hui sur les événements égyptiens de la période 1879-1882. Est-ce qu'on a l'émergence d'un authentique libéralisme et constitutionnalisme égyptien, arabe et musulman, ou une manipulation destinée à prendre les Européens au piège de leurs propres idées libérales? Probablement qu'on est à moitié distance des deux points, mais ce n'est pas facilement prouvable, puisque là, on est dans les questions d'interprétation plus que de démonstration. Donc, dans ce cadre, nouvelle fois, le Khédive renvoie le ministère européen, le deuxième, et charge Chérif Pacha de former un nouveau gouvernement. Mohamed Sharif Pacha, 1826-1887, qu'on avait déjà vu dans les fois précédentes à propos de l'inauguration de la Chambre des délégués à l'époque du Khédive Ismaïl. Sharif annonce la formation d'un nouveau gouvernement égyptien. Donc Sharif, c'est le représentant exemplaire du groupe des Turco-Circassiens. Il est né à Istanbul en 1826, étroitement associé depuis sa jeunesse avec la famille khédiviale, avec la Beit, la maison du Khédive, qu'il a envoyé faire des études en France. Il est sorti de Saint-Cyr avec le grade de capitaine. Il a multiplié les plus hautes fonctions dans l'État khédivial et il est très apprécié par les Européens. Il parle parfaitement le français. Il a épousé la fille de Suleyman Pacha, c'est-à-dire l'ancien colonel Sèvres, qui avait été chef d'état-major des armées égyptiennes sous Ibrahim Pacha. C'est un parfait homme du monde qui se targue d'avoir des idées libérales ou constitutionnelles. Néanmoins, il se considère comme étant du groupe des maîtres et regarde les Égyptiennes souches comme des enfants bons seulement à travailler. S'il utilise le vocabulaire politique européen, c'est un farouche défenseur de son pays, totalement opposé à l'influence européenne. C'est ainsi qu'avec Nubar, il s'était opposé au projet du canal de Suez parce qu'il avait vu comme Nubar que c'était le cheval de Troie de la progression européenne en Égypte. Il travaille donc à la préparation d'une constitution égyptienne et d'une loi électorale. Et Ismaïl, tout en faisant des bonnes paroles aux Français et aux Anglais, s'oppose au projet de la commission d'enquête internationale présidée par Ferdinand Lesseps, qui pourtant réduisait à 5% l'intérêt de la dette unifiée égyptienne. Ismaïl apparaît momentanément comme le symbole d'une résistance nationale et religieuse contre les Européens. Mais déjà, une fraction du mouvement qu'on va bientôt appeler le mouvement national se sépare du Khedive et se rapproche du fils et prince héritier Tewfik, qui paraît plus sincèrement libéral. C'est le cas en particulier du groupe animé par Jamal Eddine Alafrani et le cercle de Mohammad Abdou, c'est-à-dire donc ces réformistes musulmans qui sont en action depuis le début des années 1870. Au Caire. Même Chérif prend sa distance avec Ismaïl, car il craint une restauration de l'autorité directe de la porte qui passerait par l'intronisation du prince Halim comme nouveau khédive. Alors là, ça va être une question complexe qui va revenir de façon lancinante. Je vous rappelle le problème. Ismaïl avait obtenu de la porte du gouvernement ottoman la primogéniture qui fait donc de son fils Tewfik l'héritier du trône, alors que celui qui aurait logiquement l'héritier du trône est le prince Halim, le dernier fils de Mehmet Ali, qui est en exil à Istanbul et donc que l'on soupçonne à juste titre d'intriguer depuis Istanbul pour devenir khédive à la place du khédive. Et Halim va soutenir les libéraux, financièrement parlant en particulier, dans cette affaire égyptienne, et son nom donc va revenir de façon lancinante dans cette crise égyptienne qui va durer jusqu'à l'automne 1882. Ce qui va entraîner la déposition d'Ismaïl, c'est l'attitude des petits créanciers, c'est-à-dire de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, qui protestent contre l'attitude d'Ismaïl, ce qui veut dire que les puissances européennes ne s'opposeront pas à l'action conjointe de la France et de la Grande-Bretagne. Autrement dit, soyons clairs, Bismarck a donné feu vert à la France et à la Grande-Bretagne pour agir en Égypte. Donc Paris et Londres suggèrent vivement au khédive d'abdiquer, mais ce dernier ne veut rien entendre. Donc les Français et les Anglais se tournent vers Constantinople pour demander au sultan une déposition d'Ismaïl, mais avec succession assurée au bénéfice de Tewfik et non pas de Halim. Car pour les Français et les Anglais, le prince Halim aurait signifié une reprise directe de l'Égypte par Constantinople. Et alors, on a ce spectacle extraordinaire du 26 juin 1879, où la porte re-signifie son autorité sur l'Égypte par deux télégrammes. Le premier destiné à l'ex-Khedive Ismail et le second au nouveau Khedive Tewfik. Et c'est en lisant le télégramme qui lui est adressé comme ex-Khedive qu'Ismail comprend qu'il a été déposé par le sultan. Alors, un personnage que nous allons rencontrer l'année prochaine beaucoup, parce qu'en plus c'est une source considérable pour l'histoire de l'Égypte dans cette période, c'est un Suisse, John Ninet, qui est établi en Égypte depuis plusieurs décennies, qui est dans la culture du coton et qui est un farouche républicain qui s'est converti à la cause nationale égyptienne. Et Ninet, dans cette période, va être aussi bien un acteur sur la scène politique égyptienne qu'un propagandiste en Europe de la cause nationale égyptienne en écrivant dans la presse européenne en faveur de l'Égypte. Et donc, il marque la situation au moment de la déposition d'Ismaël de la façon suivante. Depuis le coup d'État, le paysan a repris souffle. Il comprit de suite la faute commise, non suivie d'un arrangement financier immédiat, était la dernière de celles trop longtemps permises au Khedive. Dès lors, avec le prestige, déclina aussi la peur. Et à l'heure qu'il est, on entend dans les cafés de l'intérieur, sur les rives du fleuve, aux causeries du soir, partout au village et aux champs, le fellah parler librement comme à Venise, où l'on dit « mais on ne fait pas tout ce qu'on veut, nonobstant, c'est un pas immense ». L'Égyptien est intelligent, il se transformera plus vite qu'on ne le pense. Le sujet des conversations est le financier et l'avènement non encore confirmé par Ferman de Tewfik Pacha. Sur le premier point, les fellahs se promettent bien de ne plus se laisser dépouiller sans crier. Et je crois que l'administration fera bien d'agir avec prudence, d'autant plus que la franc-maçonnerie indigène musulmane a en Égypte de profondes attaches. Ce rôle important dans le mouvement libéral égyptien de la franc-maçonnerie. J'ai été étonné hier chez le Moudir, préfet, des bonnes et fortes raisons que laissait tomber de sa bouche un mamour, c'est-à-dire un espèce de sous-préfet, encore en emploi à l'appui des droits des cultivateurs à une véritable représentation nationale. Le parti dit national que les Khedives, qui se jouaient de tous et de tout, inventa in extremis pour aveugler l'Europe sur ses intentions, a fait souche contre son attente et tout gouvernement égyptien devra désormais compter sur un élément avec un élément nouveau sur les bords du Nil, mais plein de sève. En effet, là, comme pour reprendre le titre magnifique de mon ami Jean Lacouture, qui est récemment décédé pour une autre période, l'Égypte est entrée en mouvement. Et c'est ce qui marque le début de règne de Tewfik. Tewfik a une personnalité plus réservée et moins entreprenante que son père, mais c'est aussi un autocrate dans l'âme. Il a tiré de l'expérience de son père la leçon qu'il ne doit en aucun cas s'opposer aux Européens. Il ne prendra donc pas le rôle de héros national. En revanche, les Franco-Britanniques ont compris qu'on ne peut pas gouverner l'Égypte sans la collaboration du Khedive. Sharif lui tente d'établir un régime constitutionnel en se posant comme un homme d'État libéral et patriote. Il veut surtout ne pas apparaître comme un valet des Européens et celui qui a accepté la restauration du pouvoir personnel du Khedive. Il démissionne donc le 17 août plutôt que d'apparaître cédé devant l'autocratie et les étrangers. Il est vrai que Tewfik et les Anglais sont d'accord pour considérer qu'une constitution égyptienne serait, disent-ils, un simple décor de théâtre. Ce qui est de bien pour l'Égypte, pour assurer sa stabilité, c'est un despotisme bienveillant. Voilà ce que pensent les responsables européens. Le nouveau Khedive doit donc faire face à la tentative du gouvernement ottoman de rétablir l'autorité ottomane en Égypte. Dans cette affaire, la France et la Grande-Bretagne soutiennent Tewfik. Le firman d'investiture du 14 août 1879 reprend de façon générale celui de 1873, avec un plafond des effectifs de l'armée égyptienne à 18 000 hommes. Le Khedive perd le privilège de contracter sans autorisation des emprunts à l'étranger. Le 4 septembre, le contrôle financier, contrôle général des finances est rétabli, avec Baring comme contrôleur général des recettes. Il sera rapidement remplacé par Auckland Colvin, puisque Baring partira pour travailler en Inde, et M. de Blinière comme contrôleur général de la comptabilité et de la dette publique, siégeant au Conseil des ministres avec voix consultative. Mais comme c'est eux qui contrôlent les finances, c'est eux qui décident. Le 21 septembre, Tewfik désigne à la tête du gouvernement Riaz Pacha, Riaz Pacha, mais les Européens l'appellent Riaz, une personnalité connue pour ses tendances conservatrices et autoritaires. Mais Riaz est un personnage extrêmement intéressant. On l'a soupçonné, sans jamais pouvoir le démontrer, qu'en fait il s'agissait d'un juif converti l'islam. En tout cas, il est d'origine turque et se comporte de façon paternaliste avec les Égyptiens de souche. C'est un musulman fervent qui aspire à ce que les musulmans retrouvent leur gloire passée. C'est un réformateur et un homme de devoir, profondément hostile à la corruption. De leur côté, les turco-circassiens essayent de défendre leur position économique et sociale en se drapant du manteau du constitutionnalisme et du patriotisme, tandis que les Européens se tiennent d'autoritarisme. Le consul de France peut ainsi faire la dénonciation du régime de Pacha, je cite, « Il est évident, monsieur le ministre, que Tewfik Pacha ne se croit pas suffisamment assis pour affronter les outrages non pas du parti national qui n'a jamais existé, mais de la classe conquérante et dirigeante qui, bien que réduite à un millier de Pachas turcs, sait encore au nom de la religion commander au fellah et se faire obéir. » Donc on dénonce le mouvement national comme étant une manipulation des Pachas. Sharif publie le 4 novembre 1879 le manifeste du Parti national égyptien qui se présente comme la traduction française d'un original arabe. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le dit original arabe et que, selon toute vraisemblance, enfin, ça a été démontré pratiquement, c'est Ninette, le Suisse, qui a rédigé ce manifeste égyptien. Donc, du manifeste du Parti national égyptien, dont je cite, « L'initiative du Parti national est un devoir sacré découlant d'un droit indiscutable, de ce droit que possède une nation libre, homogène, de 5 millions d'habitants, vouée à l'agriculture laborieuse et soumise aux mêmes lois civiles et religieuses. Cette nation, c'est la nation égyptienne qui a résisté à des milliers de siècles de despotisme et sans le travail de laquelle la fertilité du sol ne saurait rien produire. Ce peuple laborieux, émancipé aujourd'hui, ne veut plus d'esclavage. Le Parti national entend relever les masses par une instruction progressive, primaire et secondaire, appropriée aux mœurs et aux occupations des habitants, et ainsi de suite. Donc avec des assurances données que les intérêts européens ne seront pas atteints. L'analyse, donc le fait que ce texte n'existe qu'en français démontre qu'il vise les milieux européens et les représentants des puissances et non l'opinion publique égyptienne. Mais c'est là où, encore une fois, la situation est toujours très difficile à interpréter, c'est que Riaz est autoritaire, réformateur, mais va s'appuyer sur les Égyptiens de souche contre les Pachas. Et pour la première fois, on a plusieurs ministres fellahs au gouvernement égyptien. C'est-à-dire que l'opposition qui se targue d'être nationale est composée de turco-circassiens, tandis que le régime autoritaire et réformateur comprend des Égyptiens de souche, dont le célèbre Rali Pacha Moubarak, pour ceux qui connaissent l'histoire et la culture égyptienne. Et en même temps, c'est Riaz qui contrôle le pouvoir réel, Khedive n'étant là que pour la forme et signant les décrets préparés par Riaz. D'où le fait qu'on a une vraie action réformatrice sous le ministère de Riaz Pacha, augmentation du nombre de fellahs dans l'administration, renforcement de la taxation sur les grands propriétaires, abolition de la corvée au profit des propriétaires privés, la corvée que les propriétaires privés utilisaient, interdiction de châtiments corporels sur les paysans. Et évidemment, toutes ces mesures que Riaz prend en faveur de la paysannerie égyptienne provoquent le mécontentement des pachas qui parlent en printemps 1880 de lancer un mouvement militaire contre l'autoritarisme de Riaz. Mais le Khedive, qui semble assuré du soutien des Français et des Anglais, peut rappeler tout le monde à l'ordre, et Riaz peut museler l'opposition en jouant sur les mesures d'exil en Europe ou au Soudan, ça c'est pire pour le Soudan, et par l'interdiction des journaux trop ouvertement hostiles. Serait-ce que quand même on est dans une situation fragile entre une crise financière, des réformes autoritaires et une fronde des pachas. Et la grande œuvre du gouvernement de Riaz Pacha est la loi de liquidation de la dette égyptienne du 17 juillet 1880 qui permet d'abaisser le taux de la dette consolidée de 6 à 4%, ce qui provoque le mécontentement des créanciers européens. Evelyn Baring quitte l'Égypte et donc est remplacée par Colvin, comme je vous l'ai dit. Mais il n'en reste pas moins que la charge de la dette est absolument écrasante. Ça correspond à 8,4 millions de livres sterling par an, ce qui est absolument insupportable, d'autant plus que Riaz fait plutôt payer les grands propriétaires que la paysannerie. Dans ce contexte, l'Égypte connaît une espèce d'efflorescence intellectuelle absolument extraordinaire dans la lignée de la renaissance littéraire arabe et des idées réformatrices. Alors, parmi les mécontents, vous avez des Syro-Libanais et Shawam. Du fait de leur éducation et de leur connaissance des langues européennes, ils se considèrent comme devant jouer le rôle d'intermédiaire entre les Européens et les Égyptiens. Or, depuis le ministère européen, on fait appel de plus en plus à des fonctionnaires européens très bien payés et on supprime des emplois accordés aux Égyptiens et aux Syro-Libanais. Ils jugent aussi que les capitulations accordent des privilèges indus aux Européens, ce qui rend la compétition inégale. Ce qui explique pourquoi, dans le bouillonnement intellectuel que connaît l'Égypte dans cette période, les Syro-Libanais vont jouer un rôle important en adoptant des positions assez véhémentes contre les ingérences étrangères. Tout un groupe de ces jeunes levantins peuvent ainsi se présenter comme le parti de l'Union de la jeunesse égyptienne en raccourci la jeune Égypte, Masr al-Fatat, qui renvoie évidemment à la jeune Italie du Risorgimento, donc le modèle carbonariste italien est évidemment extrêmement fort. Garibaldi, je vous rappelle, dans cette période, c'est une idole mondiale. Le modèle européen. Alors, Tewfik Riaz, à l'époque de Khedivia d'Ismaïl, semble avoir montré des sympathies pour le mouvement réformiste et constitutionnaliste. Mais c'est bien quand on est dans l'opposition, mais pas quand on est au pouvoir. Vous savez, on est plutôt de gauche quand on est à l'opposition, et ensuite, au pouvoir, on change de vision des choses. Ils sont plutôt devenus des autoritaires. Et ça va expliquer la décision prise par Riaz, assez vite après son arrivée au pouvoir, d'expulser d'Égypte Jamal ed-Din al-Afrani. Soupçonné d'acquaintance, ce qui n'est certainement pas faux, avec les partisans du prince Halim, puisqu'à une époque, en tout cas, Afrani faisait partie d'une loge maçonnique qui était financée par le prince Halim et qui s'appelait le Grand Orient d'Égypte. Il est certain que le philosophe, comme ses disciples l'appellent, sont entrés à partir de 1877 dans la politique égyptienne, dans le contexte de la guerre russo-ottomane, que le rôle des loges maçonniques est essentiel comme lieu de rencontre, de sociabilité et d'échange d'idées. Il semble qu'Afrani, pendant un moment, en effet, était plutôt partisan de Halim, mais s'en est éloigné car il considère que Halim est trop proche d'Abdul Hamid et de l'autocratie de Constantinople. Il aurait envisagé, avec Mohamed Rabdou, d'organiser un assassinat du Khedive Ismaïl, mais ce n'aurait pas été plus loin que des paroles. Il n'y a jamais eu la moindre mise en pratique. Il s'est rallié à Tewfik quand Tewfik lui paraissait soutenir le constitutionnalisme, mais ensuite il aurait accusé le Khedive d'être l'instrument des ingérences étrangères, d'où son expulsion. Mais il est possible aussi que l'hétérodoxie religieuse d'Afrani ait joué contre lui. En tout cas, il a été officiellement accusé de complot et de diffusion de doctrines subversives au détriment de l'État et de la religion. Alors, il faut prendre en compte les disciples d'Afrani qui mènent maintenant une presse politique particulièrement active. C'est le cas à partir de Yacoub Sanou, dont le nom francisé c'est James Sanua, S-A-N-U-A, qui a fondé un journal satirique, Abou Nazar Zarka, Abou Nadara en français, comme vous voyez, sur cette copie, L'homme aux lunettes bleues, en 1877. James Sanua, qui est d'origine juive et qui est de confession juive, se distingue particulièrement par un usage de l'arabe dialectal égyptien, ce qui est très important sur l'histoire de la littérature et de la linguistique égyptienne, et son journal satirique aurait pris une dimension relativement considérable. Il tirait, paraît-il, à 15 000 exemplaires, ce qui est absolument énorme dans l'Égypte de 1880. Sanua est clairement un partisan du prince Halim et un adversaire d'Ismaïl. Vous voyez cette caricature de Sanua avec la traduction française. On voit les félins amaigris par la faim et la misère maudissent Ismaïl, engraissé de leur dépouille. Il est évident que cette caricature ne peut que vous rappeler les caricatures françaises de 1788-1789 contre la noblesse et le clergé qui s'engraissaient au détriment du tiers état. Donc, Sanua a été expulsé en France en juin 1878, d'où il poursuit ses activités journalistiques, faisant passer clandestinement ses publications en Égypte, tout en vivant modestement de ses activités d'enseignement, en particulier de cours privés de langue arabe. Et de ce fait, Sanua en exil à Paris va devenir une référence pour les Français et pour la presse française dans les affaires orientales. Donc il va avoir une forte influence à la fois dans les milieux dirigeants français et dans les milieux de la presse française. Et puis il va rester jusqu'à la fin de sa vie à Paris. Par exemple, Isabelle Eberhardt prendra des cours d'arabe auprès de James Sanua. Au passage, notons que c'est le seul grand écrivain arabe de la Dada qui soit d'origine juive. Il n'y en a pas d'autres, pratiquement, qui ont joué un rôle important dans la littérature arabe, indépendamment de lui. À côté, on a le jeune Adib Ishaq, né le 21 janvier 1856 à Damas, qui est un proche d'Afrani. Élève brillant, Ishaq a commencé à publier dans la revue de Boutros al-Boustani des articles de nature encyclopédique. Avant de se lancer dans le théâtre, il a traduit Andromaque de Racine en arabe. Il part ensuite pour l'Égypte, où il est introduit auprès d'Afrani et fonde le journal Mosr, c'est-à-dire l'Égypte, en 1877, qui diffuse les idées du maître en matière de constitutionnalisme et de lutte contre les ingérences étrangères. Ishaq sera à son tour expulsé d'Égypte à la fin de 1879 et s'installera lui aussi à Paris, où il relancera son journal. Je cite, voici le journal Mosr. Le despotisme l'a fermé, il est mort en martyr, puis la liberté l'a ressuscité, il vit heureux. Mon but est d'exciter ce qui reste de l'ardeur orientale et de réveiller le sang arabe, lever le voile qui aveugle les naïfs et renouveler le zèle dans leur cœur, dans les cœurs de ceux qui savent, pour que mon peuple sache qu'il a un droit qui lui est pris, afin qu'il le revendique, des biens spoliés qu'il doit récupérer, pour qu'il s'acharne à lutter contre ceux qui vendent leur corps, leurs biens et leur patrie aux étrangers. Le sang arabe, là aussi, c'est des signes qu'on va vers une identité politique arabe. Quant à Afrani lui-même, on a trouvé un document extrêmement intéressant dans ses archives. C'est une lettre non datée, rédigée en persan, adressée à un homme d'État ottoman. D'après les éléments du document, on peut penser que cette lettre a été rédigée dans le contexte de la guerre de 1877-1878, ou peut-être dans les premiers mois de 1879. Il y a eu une discussion parce que des gens voulaient le placer plus tôt, mais l'analyse contextuelle quand même permettrait de situer à ce niveau-là. C'est un témoignage essentiel sur l'évolution de la pensée islamique dans cette période, puisque l'auteur se présente comme un défenseur de la nation al-Milla islamique et du gouvernement ottoman qui doivent affronter de terribles épreuves. Pour cela, Afrani a étudié les causes de la grandeur et de la décadence des nations passées et les actes des grands hommes. Et c'est là on a un passage assez passionnant pour l'historien, puisqu'il explique que son intention s'est ainsi portée sur la vie d'Abou Muslim, celui qui a fait ce qu'on a appelé plus tard la révolution abbasside, le renversement de la dynastie des Omeyyades et l'événement des Abbasides. Et Abou Muslim est aussi l'un des gens que Daesh aujourd'hui revendique comme grand ancêtre, mais aussi celle de Pierre l'Ermite, ce pauvre moine qui a soulevé les Francs et les a conduits à la croisade. Donc on a Afrani se revendiquant de Pierre l'Ermite comme modèle. on voit ici qu'on a un réformateur musulman qui cite un des promoteurs de la première croisade comme modèle de l'utilisation de la propagande religieuse à des fins politiques. Bien qu'évidemment, la préférence d'Afrani se tourne plutôt vers Abu Muslim, personnage mystérieux, parce qu'Abu Muslim, c'est un nom de guerre, évidemment, le père des musulmans. Cela témoigne aussi du progrès de la connaissance de l'histoire européenne dans les élites musulmanes, puisque ça ne fait pas 25 ans que le mot croisade a été traduit en arabe. Puisqu'on a pu déterminer que le premier auteur arabe à avoir cité les croisades, au passage, c'est un prêtre chrétien, l'évêque Nicolas Mourad, mais dans un texte français, en 1844, que le premier texte arabe citant les croisades serait Agnus Chidiac dans l'histoire des notables du Mont Liban, en 1859, qui mentionne au passage les guerres des croisés, El-Rourub Salibia. En 1865, une brève histoire des croisades traduite du français par le patriarche melkite Maximus III Mazloum a été traduite. La traduction date de 1841, mais n'a été publiée qu'en 1865. Et c'est une traduction de la célèbre histoire des croisades de Michaud et Poujoulin, qui est la version catholique de la France romantique sur les croisades. C'est là, on peut considérer que soit c'est par ces sources-là qu'Afrani pouvait connaître l'histoire des croisades, mais maintenant il faut se rappeler que cette élite lit directement en français et accessoirement en anglais. Donc ils lisent directement les écrits européens. Et selon toute probabilité, en fait, Afrani doit s'inspirer de Guizot, comme je l'ai dit la fois précédente, puisque l'histoire de la civilisation en Europe de Guizot vient d'être justement traduite en arabe. Dans la suite de la lettre, Afrani annonce son intention de se rendre en Inde afin de prêcher auprès des notables musulmans indiens la nécessité de l'union de tous les musulmans. Il met sur le même rang le nouvel esprit de l'amour de la nationalité, c'est-à-dire le patriotisme, et le fait que la survie de l'islam passe par la survie du sultanat ottoman. Il appellera tous les musulmans à fournir une contribution financière sans chercher à empiéter sur la politique britannique. Il insistera au contraire sur le danger russe pour les musulmans, ce qui ne peut que susciter la sympathie des Britanniques. C'est pour ça que l'analyse contextuelle renvoie à 1878, c'est-à-dire la nécessité pour les Ottomans d'avoir le soutien des Anglais contre les Russes. Et alors qu'on sait que fondamentalement, Afrani a été toujours, toute sa vie, un anglophobe acharné, un adversaire de l'impérialisme britannique. Donc, c'est le contexte qui permet d'expliquer cette référence favorable aux Anglais. Il ne doute pas pouvoir tirer des contributions financières considérables et de susciter une forte amitié entre musulmans qui peut aller jusqu'à l'unité de l'islam. Cette unité des musulmans fera comprendre à la nation anglaise la nécessité de soutenir le gouvernement ottoman. Une fois cette mission terminée, Afrani se rendrait ensuite en Afghanistan pour plaider auprès de ses guerriers intrépides la nécessité de combattre les Russes. Si par malheur les Ottomans sont défaits, les villes saintes de l'islam, voire l'islam lui-même, seraient en danger. Dans ce cas, les Afghans seraient abaissés au niveau des Juifs de Boukhara et sont comme des moutons sans maître, des proies pour les loups. Donc il appellera aux armes les guerriers afghans prêts à se sacrifier pour l'islam. Il enverra des émissaires à Kokand et à Boukhara pour faire savoir aux habitants de ces régions qu'il faut attendre le temps et l'heure de la fin de la période, ce qui est le lecteur comprenant évidemment que le temps et l'heure, c'est l'arrivée du Mahdi qui doit libérer les musulmans. Ensuite, il se rendra au Balochistan pour appeler les habitants à se joindre à la guerre générale, puis il s'adressera aux Turcomans pour les appeler à la revanche contre les Russes et être fier de l'appartenance à la race, Cinciyar dans le texte, turc, et apporter la bannière de l'unité de l'islam. Si tous ces peuples combattent les Russes, ils auront le soutien des Anglais. Jusqu'ici, ces peuples n'ont pas vraiment résisté aux Russes parce qu'ils se battaient pour des émirs injustes et des gouvernements oppresseurs. Mais quand ils se battront pour la défense de la religion et la préservation de la foi, ils auront le courage qui leur manquait auparavant. Le but de cette lettre n'est pas de demander de l'argent, mais de recevoir des documents d'accréditation de la part du gouvernement ottoman afin qu'il soit bien reçu par les autorités musulmanes. Donc, ce document témoigne de la personnalité d'un agitateur professionnel qui entretient des projets grandioses et qui a besoin pour les réaliser du soutien des autorités constituées qu'il critique par ailleurs. On a là aussi un appel à la guerre sainte, au djihad, ici contre la Russie, qui pourrait déboucher sur une guerre entre la Russie et la Grande-Bretagne. On voit surtout qu'il donne la priorité à la lutte contre l'ennemi extérieur plutôt qu'à la réforme intérieure. Mais on voit aussi dans ce texte que la guerre russo-ottomane a suscité un sentiment d'union musulmane au-delà de l'Empire ottoman, mais que si la personne d'Afrani est un témoignage de l'existence d'un monde musulman, puisqu'il étend son activité de l'Inde à l'Égypte, il n'y a pas encore de traduction politique concrète à un tel sentiment. On n'est pas sûr que ce document ait été envoyé et on n'est pas sûr qu'il y ait eu une réponse. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'à la suite de son expulsion d'Égypte, Afrani se rend en Inde, où il résidera jusqu'en 1882. Il y continue son activité d'enseignement et de prédication, mais il s'abstient de se lancer dans la thématique de l'union des musulmans contre la menace européenne dans cette période. Donc là, il faut comprendre, parce que bon, là, j'anticipe sur le cours suivant. Pendant que nous avons ce discours sur l'union des musulmans, les Européens sont en train de construire l'existence d'un discours, enfin d'un discours portant sur l'existence d'un danger pan-islamique. Et il y a, je vous annonce tout de suite que la démonstration sera faite pour l'année suivante, il y a une relation entre le discours de crainte de l'islam et l'émergence d'un mouvement pan-islamique chez les musulmans eux-mêmes, parce qu'il y a interaction entre les deux. Donc c'est pour ça que de voir, que, par exemple, qu'à la couche 1879, on a déjà l'idée chez Afrani, mais elle n'est pas encore vraiment articulée politiquement. Et ce ne sera qu'au début de 1880 que les Européens vont commencer à parler du danger pan-islamique. Mais ça, c'est pour l'année prochaine. Alors, revenons à l'Égypte, où Riaz, lui, mène une politique de rapprochement avec les intellectuels contestataires. Mohamed Abdou, qui a d'abord été exilé dans sa province, se trouve ainsi chargé de la publication du journal officiel égyptien, et plusieurs de ses proches y collaborent, en particulier le jeune Saad Zarloul, qui 40 ans après, pas 30 ans après, sera le père de la nation égyptienne. On s'est souvent interrogé sur l'attitude de ses disciples d'Afrani, qui sont Abdou et Zarloul, qui collaborent avec Riaz Pacha. Mais il faut d'abord rappeler qu'Afrani lui-même, avant son expulsion, avait été dans l'entourage, ou en tout cas en relation politique excellente, avec Riaz, et que là, on est ici sur un problème essentiel, qui est que le réformisme musulman un certain penchant pour l'autoritarisme étatique, dans la mesure même où il faut une autorité forte pour faire passer les réformes indispensables pour la survie de l'État, de la société et de l'islam. Donc, Riaz paraît exactement comme le modèle du bon réformateur autoritaire, bon musulman, plutôt protecteur du peuple, mais un autoritaire absolument strict. Alors, dans ce contexte de 1880, tout le monde voit une volonté britannique, je l'ai dit, de prendre le contrôle de l'Égypte, de la Syrie, de l'Asie mineure. On n'est plus autant des auberges de Palmerston. En fait, ce qui est certain, c'est que dans les milieux dirigeants britanniques, il y a une inquiétude lancinante qui est la descente russe vers la route de l'Inde, et c'est ça plus le moteur de la politique britannique que la constitution d'un empire oriental ou proche oriental de l'Angleterre. Aussi, les élections britanniques d'avril 1880 paraissent absolument essentielles, d'autant plus que les conservateurs qui ont mené cette politique d'expansion, ils ont mené à côté, après la conquête de Chypre, une nouvelle guerre en Afghanistan. Les conservateurs de Disraeli, Lord Beaconsfield, sont battus, et c'est Gladstone qui revient au pouvoir avec les libéraux, libéraux qui apparaissent marqués plutôt dans une ligne traditionnelle d'hostilité à l'expansion coloniale, surtout Gladstone, parce que Gladstone, c'est quand même l'héritier des gens de la, disons, du, ce qu'on appelle la première génération victorienne, c'est-à-dire Cobden, Peel, etc., des gens qui considèrent que l'expansion coloniale n'a aucun intérêt parce que la paix et la prospérité au monde sera assurée par l'extension du commerce et du libre-échange. Donc, paradoxalement, ces libéraux anticolonialistes ont accéléré l'expansion coloniale de l'Europe puisqu'il fallait imposer le libre-échange. D'où l'ouverture de la Chine, la première et seconde guerre de l'opium, l'ouverture du Japon, etc. C'est-à-dire forcer les gens à accepter le commerce avec l'Europe. C'est le paradoxe dit de l'impérialisme du libre-échange. Pour que libre-échange fonctionne et qu'il faut que les gens commercent, donc on va forcer les gens à commercer, et il faut que les gens payent leurs dettes. Donc quand un pays fait banqueroute et ne paye pas sa dette, eh ben on envoie une démonstration navale, une canonnière, une flotte de guerre, ce que les Anglais ont fait plusieurs fois en Amérique latine après l'indépendance des pays d'Amérique latine par rapport à l'Espagne. Alors pourquoi c'est un paradoxe de dire l'impérialisme du libre-échange ? C'est parce que la théorie classique de l'impérialisme à partir d'Oxon dans les années 1900 est de dire que l'impérialisme est lié au protectionnisme. Et il a fallu et les marxistes se sont engouffrés ensuite derrière de Rosa Luxembourg jusqu'à Lénine. Ils ont tous repris l'idée que l'impérialisme était lié au protectionnisme. Donc l'idée de l'impérialisme du libre-échange inverse les termes. Et de ce fait, par exemple, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il vaut mieux prendre le concept d'impérialisme et de libre-échange que la théorie classique ou marxiste de l'impérialisme. Fin de la parenthèse. Et revenons donc à cela. Donc Gladstone paraît comme hostile à l'expansion coloniale, mais honnêtement un homme tout à fait hostile aux Ottomans. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que Gladstone est un islamophobe. Ses textes dans les horreurs bulgares, le Bulgarian Horrors, je vous rappelle, était d'une violence extrême contre l'islam dont la présence en Europe était un solécisme politique, disait-il. Donc une faute de grammaire. Et Gladstone était apparu comme celui qui avait pris position contre une intervention britannique en Égypte, qui alourdirait le fardeau des engagements de son pays en Orient et qui passerait par des moyens immoraux qui conduiraient inévitablement à se lancer dans des aventures toujours plus profondes en Afrique. Alors, en même temps, le gouvernement, je vous rappelle, en 1879, vous le savez tous, le gouvernement conservateur avait fait une campagne en Afrique du Sud contre les Zoulous, qui avait été accompagné d'une défaite sanglante de l'armée britannique, dans laquelle le prince impérial, le fils de Napoléon III, avait été tué. Et donc Gladstone était évidemment hostile, en tant que chef de l'opposition, à cette politique d'expansion coloniale en Afrique, puisque pour lui, il était absurde ce projet que certains commençaient à émettre dans les cercles dirigeants britanniques de faire une route impériale britannique du Cap vers la Méditerranée en contrôlant l'ensemble de la côte est africaine. Ce qui se fera au début du XXe siècle, bien évidemment, au lendemain de la Première Guerre mondiale. De plus, Gladstone a déclaré à plusieurs reprises que cette histoire de route des Indes n'avait pas de sens. Il n'y avait qu'une seule route de l'Inde, c'était le Cap de Bonne-Espérance. Et à la rigueur, Suez. Mais on pouvait se passer de Suez puisqu'on avait le Cap. Donc, tout le monde considère qu'il va y avoir un renversement de la politique britannique et l'abandon des idées impériales avec le retour de Gladstone. Surtout que Gladstone s'appuie aussi sur ce qu'on appelle les radicaux, c'est-à-dire l'aile gauche des partis libéraux, beaucoup plus démocrate que les libéraux traditionnels. Donc on considère à ce moment-là, à tort évidemment, que les radicaux sont anticolonialistes. Au contraire, ils vont se révéler les plus fervents défenseurs des intérêts impériaux britanniques. Donc c'est ça ce qu'on pense en 1880. Ce que les contemporains ne savent pas, et qui sera une grande surprise pour les historiens qui n'auront jamais réussi à l'interpréter, c'est que le premier ministre britannique a mis une bonne part de ses économies dans les titres égyptiens. Et que s'il y a bien quelqu'un qui a intérêt au paiement de la dette égyptienne, c'est le premier ministre britannique. Mais ça, personne ne le sait. On ne découvrira que près d'un siècle après, quand on étudiera les archives de Gladstone. Et jusqu'à aujourd'hui, enfin depuis qu'on a fait cette découverte, les historiens n'ont jamais réussi à trancher pour savoir si cette histoire du fait que Gladstone avait ses économies en titres égyptiens avait, oui ou non, influencé la politique britannique envers l'Égypte. Il y en a qui disent qu'il n'y en a pas eu du tout d'influence, d'autres au contraire, que c'est quand même inévitable que ça ait pu influencer l'attitude du Premier ministre britannique. Donc là, je vais arrêter là parce que je n'ai pas le temps de commencer un nouveau chapitre, mais un peu en annonce du cours de l'année prochaine, on va voir donc une question essentielle. Comment se fait-il que la République des Républicains et l'Angleterre libérale, au lieu de soutenir l'expansion du libéralisme en terre d'islam, va le combattre, y compris par intervention militaire, pour établir des régimes autoritaires et coloniaux? C'est le sens du cours de l'année prochaine. Et donc, j'espère vous y revoir et je vous remercie de votre assistance.